Nathalie, tu as parlé de tous les candidats à la présidentielle, sauf un. Et je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi tu ne parles pas du tout de Philippe Poutou ?
Et on va prendre une série de questions, donc puis Nathalie répondra après. Pour laisser le temps de réfléchir aux autres, je peux déjà peut-être répondre à celle-là. Alors, effectivement, bon, bah, tous les autres dont j'ai parlé, c'était pas en bien. Hein. Vous avez remarqué ? Mais non, mais tout simplement parce que je le mets pas dans le même sac, hein, évidemment. Philippe Poutou, il a en commun avec nous de penser que la société capitaliste, c'est pas l'avenir de l'humanité. Hein, et effectivement, en cela, bah oui, c'est un camarade. Hein, et le NPA et lutte ouvrière bah, forment, composent deux tendances de l'extrême gauche, hein, deux nuances de l'extrême gauche. Et moi, j'espère que Philippe Poutou aura les signatures, que nous serons deux, à défendre ses idées, cette perspective-là. Et je pense, parce que souvent dans des discussions, dans des débats, on nous dit « mais non, c'est dommage, vous êtes deux, pourquoi pas ensemble, etc. » Ça ne rime à rien de se mettre ensemble. Pourquoi ? Pour faire 2% ensemble ? Hein ? Ça n'a... Alors qu'en étant deux, on peut chacun s'exprimer dans la totalité hein, de notre programme, avec effectivement notre... y compris avec nos différences, y compris justement avec nos nuances. Hein ? Et moi, je vous le dis, quand on voit ceux qu'on a en face, hein, veulent tous servir la soupe à la bourgeoisie, qui répètent tous comme des perroquets les mêmes mensonges patronaux, eh ben on sera pas trop de deux. Voilà. Donc si on est deux à pouvoir accrocher hein, les 500 signatures et à pouvoir défendre effectivement autre chose dans cette campagne et parler un peu des travailleurs, eh ben ça sera quelque chose de très bien. En aucun cas, Philippe Poutou est pour moi un adversaire. Non, ça sera un camarade qui fera une autre campagne et qui permettra, y compris hein, à tous, de s'exprimer au plus près de toutes ses convictions. Alors, vous pouvez aussi exprimer des désaccords, hein. Ce ne sont pas que des questions, vous avez le droit.
Bon, ça marche là, oui. Bon, au sujet des 500 signatures, bon, il faut reconnaître une chose, est-il normal qu'un candidat qui est chapeauté par un groupe parlementaire soit tenu de fournir les 500 signatures ? Sinon, il faut reconnaître, si on trouve ça normal, que l'institution publique n'a confiance en personne. Hein ? Je voudrais savoir quelle est ton opinion là-dessus.
Il y a peut-être d'autres interventions ? J'ai convaincu tout le monde, c'est super. Bonjour, moi je veux juste poser une question par rapport à la mise en place de toutes ces machines qui remplacent les employés partout, qui me choque beaucoup, et je me dis que un moyen simple de lutter contre ça, c'est tout simplement de ne pas les utiliser. Alors, ça peut paraître bête, mais ne pas passer aux caisses automatiques, ne pas... Alors, on n'a plus le choix, par exemple, sur les autoroutes, et ça me pose question. Alors, je voulais avoir votre point de vue par rapport à ça. Comment mobiliser la population pour ne pas utiliser ces machines quand c'est possible de ne pas le faire ? d'autres questions?
Oui. Alors, je suis la même personne. J'ai pas, à part les machines, je suis aussi anti-achat sur Internet pour les mêmes raisons, parce que je pense que ça va. Voilà. Alors, je voulais savoir aussi votre point de vue par rapport à ça.
Bon, alors je réponds là-dessus déjà sur ces. Alors, sur les 500 signatures, est-ce que c'est normal qu'un groupe parlementaire passe par ces 500 signatures? C'est surtout un peu folklorique. Enfin, je veux dire, comment dire, c'est surtout hypocrite parce qu'en réalité, un groupe parlementaire. Après, ça dépend quel groupe, hein. Mais parce que des fois, un groupe parlementaire, c'est 10 minimum, hein, je crois. Mais en fait, en général, quand on a un groupe parlementaire, on a aussi des élus régionaux, on a aussi des élus au conseil départementaux, et donc recueillir 500 parrainages, ça pose absolument aucun problème. En réalité, le système, il est fait sur mesure pour les partis qui sont au pouvoir et pour verrouiller l'entrée des autres. Hein, c'est ça, en fait, le but. Et évidemment, ce qui est foncièrement injuste et antidémocratique, hein, dans ce système, c'est que les maires subissent une pression de la part des élus dont ils dépendent, par exemple dans les communautés de communes ou par exemple sur les conseils départementaux régionaux. Et effectivement, ils craignent, quand ils parrainent un candidat d'un autre parti, avoir des mesures de rétorsion. Par exemple, ils craignent que leur dossier sur tel ou tel aménagement passe en dernier ou soit même recalé. Voilà, c'est ce genre de choses. Et nous, c'est vrai que dans ce système-là, on pense que ce qui serait bien plus démocratique, c'est un parrainage citoyen. C'est-à-dire solliciter, demander la signature, alors je ne sais pas moi, de plusieurs milliers de citoyens lambda. Ce qui nous permettrait aussi d'ailleurs, du coup, de faire la campagne. Hein, de faire la campagne. Là, finalement, on donne la charge d'assurer le pluralisme à des maires qui, quand même, sont beaucoup coincés. Hein, donc, heureusement qu'il y en a qui assument ce geste. Hein, je crois qu'ils peuvent en être fiers. Mais c'est vrai que c'est un système qui est vraiment fait pour verrouiller les choses. Et la démocratie, je l'ai un petit peu évoqué, regardez, même par rapport aux médias. Hein, non, c'est vraiment une parodie de démocratie. Hein, parce que, y compris quand vous voyez qui a accès aux grands médias, hein, et qu'au bout du compte, quand on est milliardaire, qu'on a de l'argent, qu'on a pu se payer une télé, on peut se payer aussi une campagne électorale, et donc on influence ainsi l'opinion publique de façon extrêmement importante. Hein, les Bolloré, les Bouygues, les Drahi, ils ont un seul bulletin à glisser dans l'urne, comme nous. Sauf qu'ils ont une influence qui est considérable. Et cette influence-là, elle continue après les élections. Parce qu'une fois que le président est élu, il continue. Hein, et eux, ils n'ont pas besoin de manifester comme nous, hein, pour se faire entendre. Hein. Ils décrochent leur téléphone, ils ont une ligne directe à l'Élysée, ils ont le chef de cabinet, et il faut pas s'inquiéter, hein, leurs desiderata sont toujours pris en compte. Donc c'est effectivement une parodie de démocratie pour toutes ces raisons-là. Hein, mais encore une fois, faut pas s'en étonner. Hein, le système, il est construit ainsi, hein, pour préserver la domination, d'une classe. Elle a construit son État, ses institutions à sa mesure. Hein, donc nous, hein, on essaye d'utiliser les quelques brèches, hein, qui existent. Pour défendre nos idées et pour avancer, mais on sait aussi que nos moyens, hein, on pourra d'abord et avant tout s'appuyer sur nous-mêmes, sur nos moyens militants, notre force de conviction, donc il faut d'abord et avant tout ne compter que sur nous-mêmes pour défendre nos idées. Alors sur les machines, l'utilisation des machines qui finalement suppriment des emplois, moi je pense pas que ça fonctionne comme ça. Hein, je pense qu'il y a les machines, mais ce sont pas les machines qui suppriment les emplois. Hein, c'est bien le patronat qui décide de supprimer des emplois. Nous avons des camarades qui travaillent dans les grandes surfaces et qui sont confrontés à ce problème des caisses automatiques. Et effectivement, à ce discours patronal. Mais à quoi, qu'est-ce qu'ils répondent à cela? Ben, ils répondent, attendez, nous, on court du matin au soir dans les rayons, en réserve, dans les caisses, etc. On a des queues incroyables. Les gens, quand ils arrivent, ils sont remontés comme des pendules et ils nous crient dessus. Hein? Donc, il est hors de... Mettez vos caisses automatiques si vous voulez, mais il est hors de question de supprimer des emplois. Les caissières qui ne seront pas là, eh ben, on les redéploiera à d'autres endroits parce qu'on en a besoin. On répartit le travail. Il faut mener ce combat-là. Parce que les machines, ça devrait justement nous soulager. Et ça nous soulage, en réalité, ça soulage la société dans le travail quotidien. Ça réduit évidemment le temps de travail nécessaire à fabriquer les richesses. Ça devrait être quelque chose de positif, à condition évidemment que ceux qui les maîtrisent, qui les mettent en œuvre et qui les organisent ne gardent pas tout pour eux. C'est ça le problème. Donc moi je dis oui aux machines, mais qu'on en prenne la direction. Et on pourrait avoir les machines et les emplois. Et se répartir le travail entre tous et faire un travail, y compris, beaucoup moins dur, beaucoup moins usant. Heureusement qu'il y a des machines qui soulagent, y compris physiquement, le travail hein, des salariés. Heureusement. Hein. Donc l'avenir, c'est ça. L'avenir, c'est... Enfin, pour nous, l'avenir, c'est que les travailleurs, ils prennent le contrôle hein, des entreprises. Hein, et avant ça, là, dans l'immédiat, mais qui revendiquent tout simplement hein, qu'il n'y ait pas un licenciement qui n'est pas une suppression d'emploi. Le patron, il achète les machines qu'il veut, mais nous, on se bat pour que personne parte, soit à la rue. C'est ça notre combat. C'est ça notre combat. Et j'espère que si on enclenche ce combat-là, bah, bien sûr qu'on ira jusqu'à contester l'ensemble hein, de la direction de la bourgeoisie sur toutes ces entreprises et que on fera fonctionner ces machines eh ben, pour le bien de tous. Hein, y compris des salariés. Moi, j'imagine qu'avec ces machines, on puisse baisser le temps de travail de tous considérablement. Et voilà, moi, je pense que c'est quelque chose. Ça doit être vraiment notre objectif. On peut peut-être prendre une dernière série.
Oui, on parle de machines. Je suis d'accord pour les trucs de machines dans les entreprises ou bien dans les grandes surfaces ou dans les bureaux. Mais les personnes qui ont des problèmes quand ils vont aux machines, ils font comment? C'est ça le problème. Parce que quand tu demandes un renseignement ou quelqu'un pour aller aux machines, personne ne veut aider. Ils te laissent débrouiller tout seul. Donc ça, j'aimerais bien savoir comment nous, on fait. Les autres personnes à côté.
Non, mais là, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, mais bien sûr. Il y a cette limite. Hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette lutte contre les machines, c'est quelque chose de pas nouveau. Pendant la révolution industrielle, hein, quand y a eu le machinisme qui s'est imposé, y compris en Angleterre, il y a eu tout un mouvement contre les machines. Les travailleurs ont brûlé hein, des usines, ils ont cassé des machines. Il y a eu tout un mouvement hein, qui a duré plusieurs années et qui a échoué. Hein, il faut. On peut dire c'est la faute des machines. C'est un peu comme dire aussi c'est la faute de l'Europe. Non mais il y a un parallèle à faire. Hein. S'il y a beaucoup de chômage, si les salaires sont bas, on nous explique que c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de tel ou tel traité, c'est la faute, etc. Mais il faut bien se rendre compte que il y en a qui décident de tout ça, de comment on organise le travail, qui on emploie, qui on n'emploie pas. Donc, c'est pas un problème de technique, c'est pas un problème d'institution à telle ou telle échelle. C'est vraiment une politique patronale. Hein, effectivement, leurs profits, hein, ils se font en exploitant le maximum les travailleurs, donc en surexploitant les uns, en se débarrassant des autres s'ils peuvent le faire. Et ce combat-là, il est incontournable. Et si on s'accroche, on essaye de biaiser en disant, ben voilà, faut peut-être, c'est les machines, c'est l'Europe, ou je ne sais pas, et on laisse cette classe capitaliste aux manettes, on se voue à l'impuissance, et on se voue à subir, en réalité. C'est un combat incontournable, ce combat-là, ce bras de fer avec la bourgeoisie. Hein, on peut pas y couper, et pour nous, voilà, c'est, encore une fois, c'est, vraiment le combat qu'il faut mener. Donc, nous, on est pour, mener ce combat, et on imagine une société communiste, hein, où effectivement, le temps de travail contraint serait réduit grâce aux machines, justement. On imagine une société communiste où, y compris, il y aurait des échanges, plein d'échanges, avec, les autres pays, que même les frontières s'effaceraient. Hein, parce qu'on pense que voilà une économie à l'échelle d'un pays, de toute façon elle peut pas fonctionner. Hein, les échanges, hein, c'est comme la circulation sanguine dans le corps humain. Hein, bien sûr que c'est quelque chose de, c'est une richesse aussi, hein, de profiter non seulement des productions d'autres pays, mais aussi de s'échanger et puis de des progrès qu'il peut y avoir dans les autres pays. Donc on imagine aussi un monde sans frontières. Donc voilà tout ce qu'on pourrait réorganiser. Non, pour nous, l'obstacle essentiel sur la voie de cette réorganisation rationnelle, juste, fraternelle de l'économie et de la société, encore une fois, c'est cette classe capitaliste dont il faut contester la politique.
Pour en revenir à ce problème de machines, de caisses automatiques dans les grandes surfaces, il faut se rappeler quand même que dans les années 60, il a été déclaré par le patronat que oui, bien sûr, on crée des moyennes surfaces, des sumas, des casinos, et que ceux-ci sont destinés à accueillir les petits commerçants qui retrouveront un emploi salarié et bien plus léger que d'être à leur compte. Bon, alors là, on a affaire à une trahison pure et simple. Hein.
Bah là-dessus, j'ai rien à rajouter.
C'est la dernière série. Enfin, dernière question. Vas-y, hein, pose ta question.
Oui, moi, c'est par rapport aux universités, parce que... Les grandes entreprises et tout ont de plus en plus d'influence sur les universités, il y a de moins en moins de profs, et actuellement sur beaucoup d'universités c'est un petit peu la merde, par exemple à l'université d'Orléans où il y a ça se chiffre à 11 millions de dettes je crois. Comment nous étudiants on pourrait empêcher que justement les grandes entreprises puissent pas avoir de plus en plus d'influence sur nos universités et faire en sorte que le savoir puisse augmenter, se multiplier, voilà.
Eh bien, écoute, moi, je vois pas d'autre moyen que de lier ta préoccupation, ton combat, aux préoccupations plus globales, justement, de l'organisation de la société et des droits des travailleurs. On ne peut pas imaginer gagner, avancer, les faire reculer petit bout par petit bout. Toi, t'es préoccupé effectivement de ce qui se passe à l'université, à juste titre. Mais c'est bien plus global, hein, la domination de la bourgeoisie. Et en réalité, pour la faire reculer, pour lui imposer des sacrifices, encore une fois, il faut qu'on s'y mette tous. Il faut qu'on s'y mette tous, on ne pourra pas faire ça petit bout par petit bout ou je ne sais quoi. Donc moi, effectivement, les jeunes qui voient bien, qui voient l'injustice, qui voient la décadence de la société du point de vue de ce qu'ils vivent dans l'éducation, dans l'université. Je comprends très bien. Mais il faut bien voir que c'est une décadence bien plus globale, dont les conséquences s'imposent dans tous les aspects de la vie. Pour la santé, encore une fois, sur l'écologie, sur la vie quotidienne des travailleurs, parce que c'est le chômage, parce que c'est l'exploitation, parce que c'est sur le logement, sur les personnes handicapées qui sont encore plus écrasées par tout ce système. Enfin bon, tu vois, c'est effectivement un talon de fer qui s'impose sur l'ensemble de la société. Et on ne s'en sortira pas en cherchant chacun hein, à avancer dans son domaine ou à résister dans son domaine. C'est un combat global, global. Alors moi, j'ai évoqué trois axes, trois aspects, parce que je ne veux pas dérouler, je ne veux pas faire semblant et je ne veux pas raconter n'importe quoi. Hein, il ne s'agit pas de faire un programme avec petit A, petit B sur tous les domaines, voilà ce qu'il faut faire, etc. Il y a un combat qui est à mener contre cette classe capitaliste. Et nous, nous pensons que ce combat, il peut être mené d'abord et avant tout par ceux qui le subissent, par ceux qui en sont les victimes, par les exploités, par ce monde du travail dont Marx disait qu'il n'a que ses chaînes à perdre. Donc lui, il a tout intérêt, effectivement, à partir à l'assaut, à partir au combat. Donc nous, c'est là-dessus que notre politique, elle se concentre. Et on sait que oui, si les travailleurs partent dans ce combat, prennent cette direction-là, il y aura un tas de choses qu'on pourra effectivement empêcher, qu'on pourra changer, qu'on pourra transformer. La scolarité, voilà, l'éducation, le logement, etc. Mais encore une fois, le problème, c'est que les travailleurs, que le monde du travail, hein, prennent conscience de ce qu'il est, qu'il est l'essentiel. Qu'il compose l'essentiel de la société et que ses droits, eh bien, ils doivent passer devant tous les autres et qu'il faut qu'ils se battent pour cela. Voilà. Et effectivement, avec ce combat-là, nous sommes convaincus qu'on pourra inverser la roue de l'histoire et à nouveau la refaire tourner dans un sens progressiste. Parce que quand on regarde, y compris sur l'éducation, sur les services publics, comment ont-ils avancé ? Eh bien, à chaque fois, au travers des combats des travailleurs. À chaque fois, lorsque les travailleurs ont dit « on se lève pour nos intérêts ». Hein, parce que les intérêts des travailleurs, en réalité, c'est les intérêts du plus grand nombre. Ils reflètent l'intérêt collectif. Donc voilà pourquoi on se concentre effectivement sur des objectifs de combat, des objectifs de lutte pour les travailleurs, parce que c'est à partir de là qu'effectivement, il y aura des perspectives, plein de perspectives qui s'offriront. Donc j'appelle, y compris la jeunesse, hein, tous ces jeunes qui sont révoltés, à se rallier à ce camp des travailleurs et à ses perspectives.